Catherine Marnaz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de la Grande Radio.fr Bordeaux-Gironde pour nous parler de cette saison 2017-2018 du TNBA, du Théâtre du Port de la Lune. À l'occasion de cette nouvelle saison, il y a une coïncidence, les 70 ans des CDN, et puis aussi vous êtes reconduite à la tête du TNBA pour 3 années supplémentaires.
Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que dans l'éditorial de La Plaquette, j'ai noté cette coïncidence, c'est que je suis du coup un peu pédagogue, j'allais dire, pour expliquer à la fois d'où viennent les CDN, qu'est-ce que c'est qu'un CDN. Et du coup, il y a quelque chose qui est peut-être un peu surprenant, c'est cette façon de parler aux spectateurs comme des complices, effectivement, avec une très grande transparence, une très grande confiance pour expliquer les choses en détail, parce qu'on souffre souvent de surinformation et de désinformation en même temps. Donc là, c'est une façon de leur parler en complice et de leur expliquer de cette coïncidence-là.
Et un CDN, en quelques mots, de quoi s'agit-il ?
Un CDN est une fabrique de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont là pour fabriquer les spectacles, fabriquer au sens noble, hein, et puis d'autres dont la vocation principale est de les diffuser, c'est-à-dire de les faire voir et de les faire tourner. Donc nous sommes un centre de fabrication. C'est pour ça que ce sont des théâtres qui ont une spécificité tout à fait originale dans l'ensemble du nombre de théâtres qui en France qui sont très très nombreux. Il n'y a que 38 CDN qui sont donc dirigés par des artistes. C'est leur spécificité. C'est-à-dire que ce sont des outils qui sont fait pour être pour qu'à la tête il y ait un artiste. Au départ, c'était avec sa troupe, hein, à l'origine de la création des CDN, pour effectivement développer son projet artistique au plus près d'un territoire.
Vous êtes reconduite pour 3 ans. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan sur les premières années à Bordeaux ?
Oui, les premières années se sont très très bien passées, c'est-à-dire qu'il y a eu de très grandes satisfactions, de très grands succès au niveau de la fréquentation. Parce que quand je suis arrivée, c'était un théâtre qui marchait déjà très très bien. C'était pas un théâtre sinistré, loin de là, c'était un théâtre qui marchait très bien. Et que malgré cela, en 3 saisons, on a augmenté le nombre d'abonnés de 2300 et le nombre de spectateurs. J'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, c'est très très important. Mais effectivement, ce succès cachait finalement. C'est bien de faire des bilans, ça permet de regarder en arrière et de se dire, tiens, où on en est, mais en fait cacher un manque au niveau de la création, c'est-à-dire que nous étions petit à petit acheminés vers beaucoup plus de diffusion dans ce que je vous expliquais dans la définition des théâtres, et que par une espèce de boulimie un peu folle, d'année en année on se laissait griser par le succès, encore plus de représentations, encore plus de spectacles, encore plus de spectateurs. Oui, je dirais vraiment une boulimie, quoi, par le désir d'en partager beaucoup plus, mais polémique, on ne peut pas tenir pour 2 raisons. D'abord, on serait en déficit, et puis deuxièmement, ça ne correspond pas à nos missions.
Alors, vous avez dit aussi en présentation à la presse, en présentation de saison, qu'à chaque spectacle, vous étiez en déficit.
Oui, les spectateurs ne sont pas souvent au courant de ça, c'est-à-dire que quand je refais l'historique de l'origine de cette idée que l'État doit subventionner la culture, qui est née donc après la guerre, enfin, dont l'idée a surgi pendant la guerre et qui s'est mise en place après la dernière guerre, c'est que pour que la culture soit pas seulement accessible aux gens qui sont privilégiés au niveau financier ou culturel, l'État, pour chaque place, si vous voulez, on a des subventions qui nous permettent de compenser le prix du spectacle et ce que paye le public, parce qu'évidemment la recette ne couvre absolument pas, j'insiste beaucoup là-dessus, ne couvre absolument pas le prix du spectacle. C'est vrai en théâtre, mais c'est encore bien plus vrai en opéra, par exemple. Si en opéra on payait sa place, ce serait très 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 cher.
On va parler de cette saison 2017-2018, avec 23 spectacles programmés, et puis une saison bis.
Oui, on est de plus en plus pressé par le temps, c'est-à-dire de faire des programmations qui anticipent. Il y a même déjà des propositions pendant 2 ans. Je me dis, mon Dieu, mais c'est terrible. Donc, si vous voulez, l'idée de la saison bis, c'est l'idée de donner des rendez-vous de façon plus souple aux spectateurs. Il y a les rendez-vous de la programmation qui sont dans la plaquette, pour lesquels les gens ont déjà, certains, acheté leur place. Et puis, au cours de la saison, par le biais des nouveaux outils d'information que sont, par exemple, les newsletters, on informera de divers éléments qui étaient, certains existaient déjà, mais étaient un peu épars. Donc là, c'est une façon de se dire, voilà, il y a une programmation bis en parallèle qui se fait de manière plus souple. Les impromptus, par exemple, c'est ce qui nous avait permis d'attraper au vol un spectacle mexicain qui passait, qu'on a eu l'opportunité de présenter, ou un spectacle sur les prostituées du Nigeria qui était passé là aussi, ou une maquette d'un spectacle de Julie Teuf, ancienne élève. Donc ça existait déjà. Ça s'est mis dans la saison bis de façon donc plus régulière, de même que la présentation des travaux des élèves, c'est-à-dire qu'ils seront effectivement présentés au public, à ceux qui le veulent, ou les lectures, ou les débats publics. Ça nous permet aussi, au niveau des débats publics, ce qui était compliqué, c'est que comme on met un point d'honneur avec nos partenaires à avoir des penseurs de très haut niveau, c'était souvent compliqué au niveau des dates. Il nous est arrivé de changer deux fois, trois fois. Donc le fait d'être dans cette saison bis nous permet aussi de donner des dates plus tardivement, mais du coup d'en être plus sûr et de ne pas faire de contre-information.
Vous avez cité les lectures avec les élèves de l'ESTBA. Donc c'est aussi une volonté aussi de les mettre davantage en avant au cours de cette saison.
Oui, je trouve que c'est très important que, quand je parlais de cette fabrique que représente un centre dramatique, le fait d'avoir une école qui est la pépinière des futurs acteurs de demain, des stars de demain, même quand je pense à Christophe Montenez, c'est maintenant une star. Donc, ce que je trouve important, c'est que nos spectateurs, grâce à la complicité qu'on entretient et la bienveillance de les voir grandir, et du coup, c'est une façon aussi de sentir que ces acteurs leur appartiennent. Ils se sont créés chez eux et avec eux. Le fait de jouer devant le public, c'est de la formation.
Alors pour cette saison 2017-2018, on va parler de la saison avec les rendez-vous, les 23 spectacles. On peut dire qu'il y a des fidélités, il y a aussi vos créations, Catherine Marnas, et puis aussi des nouveaux venus, et puis aussi du classique, et puis une saison, un retour avec de la danse aussi.
Oui, on a repris notre partenariat avec l'Opéra, ce qui est une très bonne nouvelle. J'avais dit l'année dernière, la saison dernière, qu'il y avait moins de danse, puisqu'on n'avait plus le partenariat avec l'Opéra. Il fallait laisser Marc Minkowski s'installer. Et voilà, nous reprenons ce partenariat avec l'Opéra pour deux spectacles la saison prochaine. Donc sur mon coup de cœur de toujours, qui est l'Implatel. Je suis une grande fan, mais je ne suis pas la seule. Et puis Kader Atou. Et puis il y aura aussi en danse, mais là, quelque chose qu'on poursuit depuis quelque temps, qui est un partenariat avec le Cuvier. Là, c'est sur Marlène Montero-Fretas.
Dans les fidélités, il y a Renaud Cogeot, il y a Laurent Lafargue, il y a le collectif Rousseau, le collectif Traverse, et puis j'en passe.
Oui, tous les gens que vous venez de citer là sont ce que j'appelle des créateurs voisins. J'aime pas beaucoup la dénomination de compagnie régionale, ça veut rien dire. Je veux dire, Laurent a une carrière nationale, enfin Renaud aussi. Simplement, ce sont des gens qui créent dans la proximité, donc des créateurs voisins. Donc effectivement, il est tout à fait normal que le CDN soit attentif à ses créateurs voisins et suive au long cours leur spectacle.
Alors des nouveaux venus, il y a Christophe Rock, Patrice Pinault, entre autres Rodolphe Dana.
Rodolphe Dana était déjà venu, je ne sais pas si vous aviez vu, il avait fait il y a 3 ans, je crois maintenant, ou 4 ans peut-être, Voyage au bout de la nuit, mais qui était un spectacle, qui était un monologue, qu'il portait tout seul. Et donc là, c'est l'occasion de voir une autre facette de Rodolphe, puisque là, c'est avec une distribution nombreuse de ses fidèles. J'allais dire que Rodolphe Dana et Patrick Pinault, c'est des fonctionnements qui sont assez proches de ce qu'on défend depuis longtemps, enfin, depuis que je suis arrivée en tout cas. C'est-à-dire cette idée d'un fonctionnement de, si ce n'est de troupe, en tout cas d'acteurs nombreux sur un plateau et de partenariats privilégiés qui font comme ça des complicités qui sentent la vie et qui sont des pulsions de vie absolues.
Il y a également des classiques.
Oui. Oui, c'est le seul art qui fait qu'on peut comparer, mettre le présent à l'aune du passé, ce qui est intéressant. Donc Shakespeare, on ne s'en lasse pas. Et puis Marivaux. Donc c'est d'une part Christophe Roque, qui est le directeur du CDN de Lille. Et puis d'autre part, pour le Marivaux, c'est Thomas Joly. Thomas Joly, qu'on ne présente plus, qui est notre, comment dire, le petit génie de la mise en scène, le petit dernier très connu, très reconnu, et qui va nous faire un très grand plaisir, je crois, avec le Marivaux, parce que c'est très festif.
Il y a deux créations, vous signez la mise en scène, Catherine Barnas, Jeune Public, il y a 7 d'un coup, et puis Maryse à minuit.
Oui, alors le Jeune Public, ça sera mon troisième ou mon quatrième, je trouve que c'est important. Dans l'idéal, j'aimerais bien que ce soit pas seulement Jeune Public, mais tout public, parce que je trouve que ça parle à l'enfance, mais ça parle de l'enfance. Donc notre enfance, on l'a tous en nous. Donc 7 d'un coup, c'est à partir d'un conte de Grimm, qui est le vaillant petit tailleur qui, en tuant 7 mouches, fait créer un malentendu, parce que tout le monde croit effectivement que les 7 d'un coup, c'est évidemment 7 humains, et qui devient comme ça une sorte de super héros que moi je place dans l'époque d'aujourd'hui, bien qu'il y ait de l'onirisme et du rêve. Maryse à minuit, ça fait partie des spectacles. Quand je parlais des forces de création d'un centre dramatique, c'est dans les spectacles à balader partout, c'est-à-dire que j'aimerais beaucoup que ce spectacle puisse aller même là où il n'y a pas du tout de structure théâtrale pour qu'il puisse se promener. C'est un texte de mes origines, j'allais dire, puisque l'auteur Serge Valetti est un auteur marseillais, et c'est très marqué de la truculence marseillaise. C'est un texte comique. Et ce qui est formidable dans l'idée de recentrer comme ça un petit peu sur la création, c'est cette notion de ruche. Je crois que quand les gens passent ici, puisque c'est un théâtre qui est tout le temps plein, donc c'est un théâtre qui est tout le temps habité, ça c'est formidable. On a l'espace qui nous permet que ça répète dans tous les coins, dans tous les côtés, qu'il y a cette notion de ruche que j'aime beaucoup et que, encore une fois, ce bel outil nous permet.
Merci beaucoup Catherine Barnas, nous étions ensemble à l'occasion de la saison 2017-2018 du TNBA, Théâtre du Port de la Lune. Merci à vous.
Merci à vous.